Le journal, Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, comment mieux lutter contre la pédophilie? Une mission parlementaire fait une quarantaine de propositions, parmi lesquelles la consultation systématique du fichier des auteurs d'infractions sexuelles pour tout recrutement de bénévoles au contact de mineurs. Précision à suivre. Coup de bambou en vue sur la facture EDF. La hausse des tarifs réglementés, c'est pour ce week-end. Près de 6% d'augmentation, colère des associations de consommateurs. On les entendra. Dans l'actualité également, menace sur le bac 2019. Plusieurs syndicats d'enseignants ont décidé de ne pas surveiller les examens de juin prochain. Un échec historique pour Benjamin Netanyahou, incapable de réunir une majorité parlementaire. Retour aux urnes donc pour les Israéliens. On parlera aussi dans ce journal des dangers des aliments ultra transformés, saucisses, autres sodas, qui augmentent les risques cardiovasculaires. Et puis, nouvelle compétition sportive, le ramassage d'ordures en pleine mer.
Deux invités au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50. Aujourd'hui, Ariane Chemin, la journaliste du Monde, et Benoît Colomba, journaliste, lui, à la cellule Investigation de Radio France.
France Inter.
Plus de 6 mois de travail, Sébastien, des dizaines d'auditions, un rapport de 300 pages, la mission parlementaire sur les infractions sexuelles sur mineurs commises par des adultes a rendu ses conclusions hier.
Une mission qui avait été créée à l'automne dernier suite aux révélations d'abus sexuels au sein de l'Église catholique. Au final, très peu de propositions sur la pédocriminalité au sein du clergé, mais des pistes plus générales pour lutter contre la pédophilie et notamment là où l'on encadre des enfants à l'école, dans des associations ou des clubs de sport. Les 4 sénatrices à la tête de cette mission proposent par exemple de renforcer les contrôles au moment du recrutement des adultes censés être ensuite au contact des jeunes et notamment chez les bénévoles. Les précisions de Rémi Brancato.
Dans l'éducation nationale, le passé des professeurs est désormais vérifié systématiquement, mais dans les associations, il y a un trou dans la raquette, dénonce la sénatrice socialiste Michèle Meunier, notamment en ce qui concerne les bénévoles.
Les agresseurs sont souvent des gens très gentils qui se proposent d'aller conduire les jeunes en voiture le samedi matin, qui aspirent confiance. On devrait avoir les moyens de systématiser les contrôles.
Les sénatrices prennent donc en exemple la Fédération française de football qui vient d'annoncer qu'elle va vérifier le passé de ses 400 000 bénévoles, car le milieu du sport est particulièrement à risque selon elle. Marie Mercier, sénatrice Les Républicains, demande une consultation systématique du FIJES, le fichier des auteurs d'infractions sexuelles.
Votre association locale qui s'occupe du rugby, qui s'occupe d'apprendre le violon, elle fait venir des intervenants extérieurs, elle pense pas du tout à consulter le FIJES, de toute façon elle ne peut pas actuellement, ça passe par les mairies.
Même situation dans les collectivités territoriales qui recrutent des agents pour les écoles par exemple, et la sensibilisation manque, dénonce Catherine Deroche, présidente de la mission d'information.
Il faut former les responsables d'enseignement artistique, de clubs sportifs. Certes, il y a une formation qui est faite, mais le côté violence sexuelle n'est pas toujours abordé.
Et pour les sénatrices, il faut aussi renforcer l'éducation à la sexualité dans les écoles pour que les enfants osent dénoncer les violences.
Rémi Brancato, au total, le rapport formule 38 propositions. Créer un observatoire des violences sexuelles sur mineurs ou encore créer des structures pour prendre en charge les personnes pédophiles afin d'éviter les passages à l'acte. En revanche, rien sur le secret médical ou le secret de la confession. Une première version du rapport envisageait une obligation de signalement pour les professionnels de santé et les travailleurs sociaux, retoqués par les parlementaires.
7h34, Sébastien, mauvaise nouvelle pour les consommateurs, le prix de l'électricité va augmenter dans 2 jours.
Samedi, votre facture EDF va en effet faire un bond de 5,9% précisément, 25 millions de foyers français concernés. Concrètement, pour un foyer utilisant l'énergie électrique pour se chauffer, cet ajustement pourrait représenter un surcoût d'environ 120 euros par an, une hausse qui fait grincer des dents, surtout 6 mois après le début du mouvement des Gilets jaunes. Les associations de consommateurs UFC Que Choisir et la CLCV s'apprêtent donc à contester cette augmentation devant le Conseil d'État. Laurent Kramer.
Selon les associations de consommateurs, cette hausse de 6% des tarifs de l'électricité n'est justifiée qu'à moitié. La loi ne prévoit de répercuter que la hausse des coûts pour EDF et rien de plus sur les factures d'électricité des particuliers, souligne François Carlier de la CLCV.
Il y a une bonne moitié, il y a un peu plus de 3% qui est imputé imputée à l'augmentation des coûts pour EDF. C'est clairement identifié comme une hausse éventuelle des coûts. Et puis une petite moitié, d'un peu moins de 3%, qui n'a rien à voir avec les coûts d'EDF. Et c'est cela que nous allons contester.
Cette augmentation automatique et son mode de calcul ne tiendraient plus la route. L'UFC Que Choisir et la CLCV s'estiment soutenus par deux recommandations de poids pour contester devant le Conseil d'État ces 6% d'augmentation.
L'autorité de la concurrence a rendu deux avis en janvier et en mars, recommandant au gouvernement de ne pas faire cette hausse de 6% et soulignant les problèmes sur le fond et en droit que pose cette hausse de 6%.
François Drogy reconnaît qu'il faut changer le mode de calcul qui enclenche ces augmentations sur les factures d'électricité en dehors de la réalité. Le ministre dénonce au passage la dérive des coûts de production d'EDF ces dernières années. Je rappelle que l'on paye plus d'un tiers de taxes sur sa facture d'électricité, répond le PDG d'EDF Jean-Bernard Lévy au gouvernement. Il faudrait peut-être réfléchir à moins taxer l'électricité.
Le ministre de la Transition énergétique s'attaque par ailleurs au tarif spécial des agents EDF qui ne payent que 10 à 15% du tarif grand public. Peut-être que le PDG d'EDF pourrait changer cela, a lancé hier François de Rugy. Bonne nouvelle en revanche pour les locataires avec le retour de l'encadrement des loyers à Paris. Cela va concerner 60% des Parisiens. Le dispositif avait été annulé par la justice administrative, mais la loi Elan le permet à nouveau. L'expérience sera menée dans la capitale pendant 5 ans. Les bailleurs qui refuseront de se conformer au prix de référence fixé par la préfecture risqueront des amendes de 5 à 15 000 euros. Les passagers sales ou impolis pourraient être privés de Uber. La mesure déjà en place en Australie et en Nouvelle-Zélande pourrait être déployée aux États-Unis et au Canada. En clair, les passagers mal notés par les chauffeurs perdront leur accès à la plateforme. On aurait pu s'en douter, mais c'est désormais une piste scientifique très sérieuse. L'abus de plats tout près, de steaks reconstitués, de soupes en poudre, bref, la consommation de plats industriels ultra transformés augmente le risque cardiovasculaire et donc de décès. Résultat de la première étude menée sur la question, réalisée par des chercheurs de l'INRA et du Conservatoire des Arts et Métiers. Daniel Messager l'a lu pour nous.
Soda, jambon, saucisses, légumes préparés contenant des sauces avec additifs, ce sont tous des produits ultra transformés et ils représentent plus de la moitié des apports énergétiques dans de nombreux pays occidentaux. Cette étude s'appuyant sur le suivi de 100 000 participants de la cohorte Nutrinet Santé pendant presque 10 ans a observé un risque plus élevé de maladies cardio et cérébrovasculaires. Par exemple, celle-ci augmente de 12% chez une personne dont un quart de l'alimentation est ultra transformée. Mathilde Touvier, directrice de recherche à l'INSERM, a conduit ces travaux.
Maintenant, il faut qu'on aille plus loin dans la compréhension des mécanismes potentiels en jeu. Est-ce que tous les aliments ultra transformés sont à mettre sur le même plan? Sûrement pas. Est-ce que, à l'intérieur de ces aliments, quelles sont les substances qui jouent? Est-ce que ce sont les additifs alimentaires? Et si oui, quels additifs, quel cocktail d'additifs joueraient sur la santé? Est-ce que ce sont les contaminants créés au cours des procédés de transformation? Et donc, on lance pour ça un nouveau programme pour lequel on recherche de nouveaux volontaires pour aller plus loin sur ces relations entre aliments ultra transformés, additifs et santé.
Seront étudiées aussi les durées de conservation, puisqu'au bout de plusieurs mois, certaines substances des emballages pourraient migrer vers l'aliment lui-même. Il est donc fortement recommandé de limiter autant que possible la consommation de ces produits ultra transformés par principe de précaution.
Daniel Messager. En bref, à l'étranger, la Louisiane adopte à son tour une loi restreignant l'avortement. Les élus républicains ont adopté hier un projet de loi interdisant l'IVG dès lors que des battements du cœur de l'embryon sont décelables, c'est-à-dire dès la sixième semaine. 16 États américains ont déjà réformé cette année la législation sur l'avortement.
7h38, direction la Chine, Sébastien, qui durcit le ton face aux États-Unis.
Changement de rhétorique, Pékin assimile les pressions commerciales de Washington à, je cite, du terrorisme économique. Déclaration cette nuit d'un diplomate de haut rang. La Chine qui par ailleurs envisage d'user d'un nouveau levier dans ses négociations très tendues avec Washington, les terres rares, ces métaux essentiels à la fabrication des smartphones. C'est la Chine qui en maîtrise la production mondiale. À Pékin, la correspondance de Dominique André.
La Chine produit plus de 90% des terres rares de la planète. 80% des importations américaines proviennent du géant chinois. Si la Chine dépend encore des États-Unis sur le plan technologique, l'Amérique comme le reste du monde ont besoin de la Chine pour se fournir en terres rares. Cet ensemble de 17 métaux stratégiques est essentiel pour les technologies de pointe. On en trouve dans les smartphones, les écrans plasma, les véhicules électriques et dans le matériel militaire. La menace d'utiliser ce moyen de pression est à apparu il y a une dizaine de jours. Xi Jinping a inspecté subtilement une usine de traitement de terres rares, une importante ressource stratégique, a souligné le président chinois. Depuis, les journaux d'État ne cessent de faire passer le message « Ne dites pas que l'on ne vous a pas prévenu », a lancé le quotidien du peuple. Tandis que l'éditorialiste du Global Times, journal nationaliste, croit savoir que la Chine envisage sérieusement de limiter les exportations des terres rares. Pékin, Dominique André, France Inter.
En face, les États-Unis ont l'air de prendre la menace chinoise au sérieux. Le Pentagone a annoncé hier être en quête de fonds fédéraux afin de stimuler la production de terres rares aux États-Unis.
Et on termine avec une compétition sportive d'un nouveau genre, j'ai nommé le ramassage de déchets maritimes.
Ça se passe aujourd'hui à Marseille, ça s'appelle le Grand Défi. L'idée, c'est de sensibiliser à la pollution en Méditerranée d'une manière ludique et sportive. 20 équipes de 5 personnes, des équipes composées de kayakistes et de nageurs. Les nageurs ramènent aux kayakistes les déchets repêchés. À Marseille, Isabelle Dore.
C'est de la plage des Catalans, à deux pas du centre-ville, que s'élanceront les participants. Direction l'escale Borély, 8 km plus loin. Et là, ce n'est pas la vitesse qui compte, souligne Sandy Aïssa, co-organisatrice de l'épreuve.
C'est collecter le plus de déchets possible. Donc pas forcément sur un niveau de timing, mais sur un niveau de volume et de quantité.
Et là, sous cette eau qui paraît propre, il y en a beaucoup des déchets ?
Il y a énormément de déchets aujourd'hui en Méditerranée. C'est la mer la plus polluée et la plus plastifiée. Il y a des bouteilles, des pneus, des trottinettes, des Vélib, de tout et n'importe quoi. Quand on regarde vraiment ce qu'il y a au fond, c'est dramatique.
À quelle profondeur ils vont aller les pêcher, ces déchets ?
Alors le but, c'est pas de s'étouffer sous l'eau. Hein. Le but, c'est vraiment de s'amuser. Donc 1 mètre, 2 mètres de profondeur. Mais il y aura aussi surtout ce qu'il y a en surface, parce que malheureusement, il y a beaucoup de déchets en surface. Donc c'est pour ça qu'on sensibilise et qu'on mène ces actions comme ça.
C'est pour ça aussi que Coralie, 32 ans, gestionnaire de compte, s'est inscrite.
C'est sportif, c'est ludique, c'est valorisant. On se sent un peu utile pour la planète. Ça a du sens de voir le déchet d'une façon différente. Un déchet, c'est pas forcément quelque chose qui est sale, c'est quelque chose qu'on a laissé à l'abandon et qu'il faut placer au bon endroit en fait. Il a rien à faire dans la nature.
En plus d'une bonne action, comme c'est une compétition, à l'arrivée, 3 prix attendront les vainqueurs. Marseille, Isabelle Dore, France Inter.
La première compétition d'Europe de ramassage de déchets en mer, départ 9h de la plage des Catalans à Marseille.
Merci Sébastien Legénie.